Le fado n'est ni gai ni triste, c'est un épisode de l'entracte. Le fado, c'est la fatigue de l'âme forte, le regard de mépris du Portugal vers le dieu en qui il a cru et qui l'a aussi abandonné. Dans le fado, les dieux reviennent, légitimes et lointains.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
Un événement du passé mis en récit par un texte, des archives et des musiques choisies. Chaque samedi à 19h sur France Culture, voici Jukebox. Bonsoir à tous. Ce soir, une dictature de vieux professeurs et une musique de canaille. Cette dictature, c'est celle conduite 4 décennies durant au Portugal par António Salazar. Depuis les années 1930 jusqu'à son retrait de la vie politique en 68, quelques années avant la révolution des œillets. La bande-son naturelle de cette histoire, c'est évidemment le fado, musique triste, chantant les misères de l'existence des quartiers populaires de Lisbonne et que le régime salazariste tentera d'orchestrer pour en faire un outil de propagande, symbole d'un idéal national, tandis que le pays, dans les années 1960, affronte de nouveaux périls, la montée des contestations, tant à l'intérieur que dans ses colonies. Ce soir, Lisbonne, Salazar et le fado. Derrière son comptoir de marbre, le pharmacien, lunettes en écaille et blouse blanche, délivre à une vieille lisboète en fichu son interminable ordonnance. Derrière elle, la jeune fille retient son souffle. Lorsque vient son tour, le pharmacien lui demande ce qu'elle désire. Elle ne répond pas, mais elle a l'impression de rougir comme un œillet. Se recoiffant maladroitement, elle saisit alors le col de son chemisier entre le pouce et l'index et elle le frotte longuement, plantant ses yeux dans ceux du pharmacien. L'autre la regarde, interdit. « Vous comprenez, ose-t-elle finalement ?» Il hausse les épaules. Alors de nouveau, elle refait le geste convenu et se dit que son chemisier va être bon à repasser. Le pharmacien, soudain, éclate d'un rire joyeux et sonore, s'enfuyant dans l'arrière-boutique dont il revient finalement, muni d'une enveloppe de papier Kraft qu'il pose sur le comptoir. « Excusez-moi, lâche-t-il goguenard, c'est bien la première fois qu'une femme se charge d'une telle commission. Une femme, je veux dire, vous n'avez pas l'air d'une professionnelle. » Elle claque sur le marbre l'appoint et sort sans écouter la suite, mais dans les ruelles du Barrio Alto, tandis que tombe le soir et qu'au loin, le Tage reflète les dernières lueurs du jour, elle se sent chancelante. Dans la poche de son manteau, ses mains palpent, fébriles, l'enveloppe contenant ses camisinhas, ses petites chemises, ainsi qu'on désigne joliment alors à Lisbonne les préservatifs masculins. Elle est en retard, mais elle s'en fout, elle court, ivre de liberté, vers son rendez-vous, vers son destin.
E nem basto que não eu gosto. Nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é de ti. Por quem espero. Se gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. E nem basto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso.
Même à Sparedes confesso, même au mur, je ne l'avoue pas, tu peux sourire, tu peux mentir et même pleurer. Même au mur, je n'avouerai pas que c'est toi que j'aime. Et d'ailleurs, qui sait si je t'oubliais, si c'est vraiment toi que je veux et que j'attends. Pas de deux amoureux et incertain que celui de la chanteuse Fernanda Pérez, enregistré en 1958. Et de fait, cela faisait un certain temps que le Portugal lui-même ne savait pas très bien sur quel pied danser. Née sur les cendres de la monarchie renversée lors d'une révolution en octobre 1910, la République portugaise avait connu des débuts chaotiques. Les choses avaient pourtant bien commencé par l'enchaînement de grandes réformes. Amnistie générale pour les crimes commis contre la sécurité de l'État, instauration du droit de grève, d'un jour de repos hebdomadaire, d'une plus grande justice fiscale, scolarité obligatoire pour les enfants, création des universités de Lisbonne ou de Porto. D'autres de ces réformes, toutefois, s'attaquent directement au pouvoir de l'Église. Légalisation du divorce, nationalisation des biens de l'Église, séparation de l'Église et de l'État. Cette laïcisation conduite à marche forcée dans un pays resté majoritairement catholique ne va pas sans heurter certaines sensibilités. De fait, le Portugal devient alors ingouvernable. De 1910 à 1926, se succèdent pas moins de 8 présidents et d'une cinquantaine de gouvernements. L'anarchie guette et bloque l'exercice de l'État. Au début des années 1920, l'économie connaît une profonde crise. Chômage, inflation, effondrement de l'escudo, le Portugal doit même en appeler à la générosité de la Société des Nations, vécue comme une humiliation. L'armée décide de mettre un terme au chaos et, en 1926, renverse la République lors d'un coup d'État. 6 ans plus tard, Salazar s'empare du pouvoir. Issu d'une famille pauvre et rurale, Antonio de Oliveira Salazar avait gravi par sa seule volonté les échelons, repéré pour ses capacités par le curé de sa paroisse, atterrissant en faculté de droit puis d'économie avant de s'engager en politique dans les années 1920, créant son propre parti d'inspiration centriste et chrétienne. Devenu député puis ministre des Finances, Salazar avait réussi à rallier à lui les milieux d'affaires, l'Église et l'armée. En 1933, récupérant le pouvoir aux dépens de cette dernière, il imposait une nouvelle constitution, l'Estado Novo, l'État Nouveau, reposant sur quelques piliers, Dieu, la patrie, la famille et l'impérialisme, une dictature en somme. Coquelicot que le vent agite, je ne me lasse pas de te voir. Pour t'aimer, j'ai perdu Dieu. Pour ton amour, je me suis perdu. Maintenant, je ne vois plus que moi, sans Dieu, sans amour, sans toi. Cette femme a péché, par amour, elle est devenue chanteuse de fado. Le fado, le destin, l'a menée si loin que Dieu l'a perdue de vue. Le chanteur João do Carmo pour ce Malmequer Pequenino, autrement dit le petit souci, enregistré vers 1930. Un petit souci, c'est justement ce que le fado constituait aux yeux de Salazar lorsque ce dernier avait pris le pouvoir. Le fado qui le précédait et de beaucoup dans les rues de Lisbonne. Né au début du 19e siècle, peut-être même avant, ses origines sont incertaines. Il descendrait des rythmes des esclaves brésiliens, pour d'autres viendrait d'Afrique ou bien ferait écho à la modinha qu'on jouait au 18e siècle à la cour portugaise alors sous influence italienne. Les Portugais, eux, aiment à penser les origines du fado, nimbées des embruns et du romantisme du voyage des marins qui assuraient les liaisons d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Croyons-les sur parole, après tout, Lisbonne est l'une des seules capitales du monde pourvue de quais ouverts sur les vastes océans. À Lisbonne, le fado était donc devenu une musique de marin, de docker, et par contagion celle de tout le Lisbonne populaire, celui des marchands ambulants, des prostituées, des canailles en tout genre, s'époumonant le soir tombé sur les drames de leur quotidien, la vie, la mort, la pauvreté, la colère, la vengeance. Accompagné par la viola, une sorte de guitare classique, mais surtout par la guitarra, cette guitare portugaise dotée de 12 cordes et qui en assure les mélodies, hommes et femmes dans les tavernes chantent le fado, le destin en portugais, la condition humaine, les amours envolés, les séparations déchirantes, les jalousies, les sentiments poussés à l'extrême. Et puis il y a l'impénétrable saudade, cette nostalgie intraduisible, ce souffle poétique. Manque encore une part de théâtralité qu'introduira les années 20 et 30 un homme, Alfredo Duarte, qui, à la mort de son père, était devenu, à l'âge de 13 ans, menuisier, marceneiro en portugais, un surnom qu'il gardera. Un soir, donc, il fait éteindre toutes les lumières du lieu dans lequel il chante et le voilà, à nu, à la seule lueur de bougies plantées dans des goulots de bouteilles. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. On se croirait dans une peinture religieuse, le clair et l'ombre, les ténèbres et la lumière vibrante. Marceneiro, l'ébéniste à qui l'on doit autre chose. Jusqu'alors, chanteurs et chanteuses s'exprimaient assis. Le public qui ne voyait pas n'avait qu'à se lever. Or, lui, un jour, qu'il se produit dans un cinéma de Lisbonne, le Chiado Terrace, suscite tant de ferveur qu'au fond, on lui demande de se lever. Ce qu'il fait. Marceneiro met le fado en scène et en accentue le drame.
Cabelo branco é saudade da mocidade perdida. Às vezes não é idade, são os desgostos da vida. Às vezes não é idade, são os desgostos da vida. Amar de mais é doidice, amar de menos maldade. Amar de mais é doidice, amar de menos maldade. Rosto enrugado é velhice, cabelo branco é saudade. Rosto enrugado é velhice, cabelo branco é saudade. Saudade são pombas mansas, é que nós damos guarida. Paraíso de lembranças da mocidade perdida. Paraíso de lembranças da mocidade perdida. Se a neve canhou de leve, sem mesmo haver tempestade, o cabelo, a cor da neve. Às vezes não é idade, o cabelo cor da neve. Às vezes não é da idade, pior que o tempo em nos pôr, a cabeça encanecida. Pior que o tempo em nos pôr, a cabeça encanecida. São as loucuras de amor, são os desgostos da vida, são as loucuras de amor, são os desgostos da vida.
Les cheveux blancs désirent tant leur jeunesse perdue, ainsi va la vie, ne regarde pas ton passé quand tu seras vieux, parce qu'il est tard et que tu ne peux revenir en arrière. Cabello Branco, Les cheveux blancs par Alfredo Duarte, enregistré pour le label Columbia en 1936. Depuis 1926, c'est le coup d'État qui avait donc porté Salazar au pouvoir, le fado intéresse le nouveau régime. Comment ne pas se méfier de cette expression culturelle aussi incontrôlable qu'elle se pratique partout, dans les tavernes, les bouis-bouis les plus reculés, hors de toute surveillance possible. Qu'elle pousse les ouvriers à boire, à interroger le sens de leur propre existence, la fidélité de leur amour. Les censeurs d'État cherchent des manières de garder la chose dans leur orbite. Ce sont d'abord les mineurs à qui le pouvoir interdit de rester dans une taverne, je cite, « plus que le temps nécessaire pour un achat ». histoire que le fado, qui cultive une tradition de transmission entre les générations, ne puisse pas s'étendre à la jeunesse. Puis, bientôt, ce sont les musiciens, chanteurs ou chanteuses eux-mêmes qui, pour pouvoir se produire, doivent s'identifier et soumettre à l'avance les paroles de leurs chansons à un comité de censure. Là aussi, il s'agit, pour un genre qui, depuis qu'il existe, s'était toujours adapté au lieu où il s'exprimait, la fadista, se devant de sentir son auditoire pour introduire improvisation et variante, il s'agit donc de corseter le fado. Dans les années 1930, le fado devient un spectacle fini, les amateurs chantant dans les cafés, les musiciens deviennent professionnels, s'adressant à une clientèle de plus en plus aisée, sophistiquée, embourgeoisée. L'ancien chant des bas-fonds donné jadis dans d'obscures tavernes se délivre désormais dans des maisons de fado, des salons de fado savamment décorés qui lui sont exclusivement dédiés, mais où, dans le même temps, tout est là pour en atténuer la portée sociale revendicatrice. À Lisbonne, ces années-là, on peut l'entendre dans pléthore de cafés, le café Dos Anjos, le café Luso, le café Ginnasio, le café Ristorante do Collegio, le café Portugal, le café Rialto ou l'Olympia, mais aussi dans des brasseries ou des salles de cinéma. Le fado, qui s'exporte également à l'étranger, porté par les grandes voix de l'époque, comme celle de la jeune Amalia Rodriguez, lors d'un concert donné en 1957 à Paris.
Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem. Que o povo nunca desmente. Uma alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, e a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, poucochinho para alegrar uma existência singela. Mas só amor, pão e vinho, caldo verde, verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim, São José de azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
Dans une maison portugaise, on est bien, le pain et le vin sur la table. Quand quelqu'un frappe humblement à la porte, on l'invite à s'asseoir. On est bien avec cette franchise que le peuple ne trahit jamais. L'allégresse de la pauvreté fait toute cette grande richesse d'être content, de donner. Uma casa portuguesa, interprétée en avril 57 sur la scène de l'Olympia à Paris par Amalia Rodriguez. Illustration d'une forme d'insouciance du Portugal où la pauvreté est alors banalisée, voire idéalisée. Tandis que s'est déclenchée la Seconde Guerre mondiale, le pays avait conservé son alliance avec la Grande-Bretagne tout en affichant une neutralité prudente et stratégique. Il faut dire que le pays a suffisamment de chats à fouetter avec ses colonies, notamment africaines, Angola, Mozambique, Guinée. De fait, c'est par là que le bât blessera. Mais restons en métropole où, malgré les privations, on continue de vivre sa vie. Ces années 1950, l'un des plus grands fadistes s'appelle Carlos Ramos. Enfant, il traînait autour des tavernes de son quartier natal, l'Alcantara, à l'ouest du centre de Lisbonne, d'où sourdaient les plaintes nostalgiques du fado. Adolescent, il avait appris la guitare portugaise au collège, entre deux cours, se mettant à accompagner en amateur chanteurs et chanteuses. Après quoi, il s'était lancé, chantant et jouant seul, dans les cafés, les restaurants, les théâtres. Puis il était passé des cafés à la radio, notamment sur la première chaîne, Emissora Nacional, et puis des théâtres au plateau des premières émissions de fado à la télévision. « Ne rentre pas tard », chante en 1958 Carlos Ramos dans ce « Nao venias tarde ».« Ne rentre pas tard », me dis-tu tendrement. « Sans jamais faire d'histoire, tu me dis tout bas, ne rentre pas tard. » Puisse Dieu faire qu'à la fin, ton cœur garde encore un peu d'amour pour moi, car tu sais que je vais voir une autre femme, qu'elle s'attache à moi aussi, que je fais tout ce qu'elle veut. Tu devines que je te mens, que je suis lâche, mais tu me dis, en souriant, mon amour, ne rentre pas tard.
Não venhas tarde, dizes-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde do que me pedes baixinho. Não venhas tarde, eu penso a Deus que no fim teu coração ainda guarde um pouco de amor por mim. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Tu estás sentindo que te minto e sou covarde, mas sabes dizer sorrindo, meu amor, não venhas tarde. Não venhas tarde, dizes-me sem azedume, quando o teu coração arde na fogueira do ciúme. Não venhas tarde, dizes-me tu da janela, e eu venho sempre mais tarde, porque não sei fugir dela. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Sem alegria, confesso, tenho medo que tu me digas um dia, meu amor, não venhas cedo. Sei onde vais, que eu chegue cedo algum dia, e seja tarde demais.
Nao venias tarde, le chanteur Carlos Ramos en 1958. L'année suivante, Carlos Ramos avait ouvert sa propre maison de fado à Toca, qui deviendra l'un des restaurants les plus célèbres du Barrio Alto, la ville haute de Lisbonne. Ces années-là, les lieux de fado deviennent des lieux touristiques. Pourtant, ce décor insouciant ne suffit pas à masquer l'extrême pauvreté qui frappe le pays. Archive 1961.
C'est que Saint-Lazare, il a peur de la richesse. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que on domine mieux un peuple qui est pauvre, qui est misérable. Parce que quand un peuple a un bon niveau de vie, il peut manger à sa faim, il peut s'instruire, il peut se rendre conscient de ses devoirs de citoyenneté.
Cet homme porte ce jugement sévère librement, ouvertement, devant notre caméra. Comment le peut-il si le régime de Saint-Lazare est véritablement une dictature, comme le déclarent ses adversaires? Nous avons posé des questions dans la rue. On n'a pas voulu nous y répondre. Ces hommes et ces femmes ont eu peur. Peur de la prison, mais surtout peur de perdre leur travail. Le président Saint-Lazare, d'ailleurs, n'a jamais prétendu être démocrate. Au Portugal, il n'y a qu'un seul parti, le parti d'Union nationale. Pas de parti d'opposition. Il n'y a pas de droit de réunion, pas de droit d'association, il n'y a pas de droit de grève. Nous aurions voulu demander à cet homme s'il est content de son journal, et si, depuis 30 ans qu'elle existe, il remarque encore le petit visa de la censure. Mais il ne nous aurait pas répondu.
Comme en témoigne l'émission 5 colonnes à la une, diffusée en 1961, le Portugal est alors muselé, les journaux affichant tous l'encart de la censure, les autorités de contrôle policier étendant leur emprise partout. On termine alors assez facilement à l'ombre, surtout si l'on affiche ses sympathies communistes. La répression politique se décline dans tout un tas de sigles. PIDE, Police Internationale de Défense de l'État, PSP, Police de la Sécurité Publique, etc., etc. La censure, on l'a dit, touche aussi le fado, à travers les ratures et les textes biffés, mais aussi, plus insidieusement, dans la constitution d'un nouveau décor, d'un nouveau cadre. Les maisons de fado sont dorénavant vendues sous l'appellation de maisons typiques, où l'on brosse un tableau idéalisé et pacifié de la nation portugaise, où l'on tente d'y faire oublier l'image de la pauvre vendeuse de poissons pour vanter plutôt l'équilibre et la solidité d'un couple formé par un pêcheur et par sa femme qui l'attend, sage et confiante, à la maison. Mais c'est un peu caché la poussière sous le tapis. D'autant que bientôt, le système paraît à bout de souffle. L'agitation dans les colonies plombe les finances du pays. Les comptoirs de Goa, de Daman ou de Diu sont annexés en 1961 par l'Union indienne. Mais c'est en Afrique où le Portugal et ses 9 millions d'habitants payent le plus lourd tribut pour empêcher la montée des revendications en Angola, au Mozambique, au Cap-Vert, à Sao Tomé ou en Guinée-Bissau. L'effort de guerre engloutit jusqu'au tiers du budget national, envoyant toujours plus de jeunes outre-mer, 800 000 dans les années 1960. 8 000 n'en reviendront pas, le moral des troupes s'en ressent. De jeunes Portugais tentent d'échapper à la mobilisation, beaucoup passent clandestinement en France. C'est alors que cette année 1961, l'opposition à Saint-Lazare donne du porte-voix à travers un happening aussi inattendu que spectaculaire, le détournement politique d'un paquebot.
C'est lundi matin, au petit jour, que nous avons appris l'incroyable nouvelle. Un paquebot de ligne portugais reliant la baie du Tage aux Antilles venait d'être capturé quelque part dans la mer des Caraïbes. Par qui? Par des passagers. Pourquoi? Mystère.
Oui, la physionomie du capitaine Henrique Galvão se dessine. Cet homme qui fut condamné par le régime Saint-Lazare au Portugal à 18 ans de prison en 1958 avait réussi à s'évader en 1959. Et peu à peu, nous nous apercevons, au fil des dépêches que nous recevons, que nous n'avons plus affaire seulement à un aventurier, mais à un comploteur qui, en s'emparant du navire, a voulu faire faire un premier pas à son pays, c'est-à-dire le Portugal, vers la liberté.
Écho du détournement spectaculaire du Santa Maria sur les ondes de l'ORTF en janvier 1961. L'affaire finalement se terminera bien, les insurgés trouvant refuge au Brésil. Toutefois, la défiance envers le pouvoir de Saint-Lazare éclate désormais au grand jour. C'est dans ce climat de défiance croissante envers le pouvoir de Saint-Lazare qu'accède à la consécration la voix la plus célèbre du fado, celle d'Amália Rodrigues. Né à Lisbonne et dans la pauvreté en 1920, d'abord brodeuse, repasseuse, puis vendeuse d'oranges, bientôt elle rejoint les chorales populaires et se trouve propulsée en quelques années star du fado. On la voit partout, au théâtre, au cinéma, à l'étranger, mariée une fois, mariée deux fois, habitée depuis toujours par l'attirance du gouffre, par la conscience de ses blessures et la nécessité de les exorciser à travers le chant. Amalia incarne désormais le fado, la saudade, et ses paupières closes et son visage de souffrance. Elle avait dit un jour, la seule manière d'atteindre la liberté est de parvenir à se désintéresser de tout. Je me suis totalement abandonnée au destin, je n'ai jamais rien fait, j'ai passé ma vie assise à attendre ma vie. Dans la chanson qui suit et qu'elle avait composée en 1945 au Brésil, Amalia Rodriguez chante le souvenir poignant d'un amour que le vent, comme une plainte, a emporté. Un amour lié au quartier de Lisbonne dans lequel il avait éclos, la Mouraria. France Culture, Jukebox, ce soir, le fado ou l'âme blessée du Portugal.
Ai, moraria da velha rua da Palma, onde um dia deixei presa a mim. Passado mesmo ao meu lado, certo fadista de cor morena, boca pequena, olhar trucista. Consigo, mas que ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, moraria dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor de rosa, dos pregões tradicionais. Das procissões a passar, da severa e mais saudosa, na guitarra a soluçar. Das procissões a passar, da severa e voz saudosa, na guitarra a soluçar.
Ai Mouraria, Amalia Rodriguez, 1962. Ces années-là, la reine du fado se range aux ordres du pouvoir. Tandis que sa notoriété devient internationale, elle va se produire aux pires heures des guerres coloniales, en Angola, au Mozambique ainsi qu'au Congo. Pourtant, ses chansons comportent de plus en plus une dimension politique. Elle se sent protégée par sa notoriété, finance des caisses de soutien aux prisonniers politiques. Dans les années 60, le pouvoir salazariste fait interdire la vente de l'un de ses titres intitulé « O Abandono », sous-titre « Fado de la Peniche », au motif qu'il fait tacitement référence à un communiste enfermé dans cette forteresse transformée en prison de haute sécurité pour nombre d'opposants politiques. pour tes pensées libres en disent les paroles signées du poète David Morao Ferreira. On t'a enfermé au loin, si loin que mes plaintes ne peuvent pas t'atteindre, et tu n'entends plus que le vent, et tu n'entends plus que la mer.
Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar por teu livre pensamento. Foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. E apenas apenas ouves o mar. Levaram-te a meio da noite, a trava tudo cobria. Trava tudo cobria. Foi de noite, numa noite de todas as mais sombria. Foi de noite. Nunca mais se fez dia, mas dessa noite o veneno persiste em mim venenar.
À Lisbonne, l'état de santé du président Salazar évolue normalement. Un bulletin de santé doit être publié ce soir.
Le premier ministre portugais a été opéré d'un hématome à la tempe. Il avait fait une chute dans sa chambre. L'intervention chirurgicale a eu lieu cette nuit et s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les médecins sont optimistes.
En 1968, Antonio Salazar, 79 ans, victime d'une attaque, sort enfin de scène. Mais le premier ministre suivant, Marcello Caetano, ne met pas fin pour autant à la répression. Finalement, face à la montée des contestations, c'est de nouveau l'armée qui va réguler les choses, notamment le général Spinola, vice-chef des armées et ancien gouverneur de Guinée, qui refuse la poursuite des combats dans les colonies. Le changement s'était incarné dans un bruit de bottes. Ces bruits de bottes sur les chemins de terre, ceux des habitants de Grandola, petite ville du sud du pays qui un jour avait fraternisé pour renverser l'ordre établi. La nuit du 25 au 26 avril 1974, à minuit 15 précise, une radio portugaise l'avait diffusée. C'est le signal. À quoi ressemblent-ils tous ceux qui, fébriles, impatients, avaient guetté l'arrivée des premières paroles comme une délivrance ?
Grandola, Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena,
dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade.
O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade,
Grândola Vila Morena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola tua vontade, Grândola tua vontade,
jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Grândola, ville basanée, terre de fraternité, seul le peuple ordonne en toi, ô cité. À chaque coin un ami, sur chaque visage l'égalité. Grândola, ville basanée, terre de fraternité. Cette Grândola Villa Morena par José Alfonso, aussi appelé Zeca Alfonso, et qui, à la différence de la plupart de ses productions de cette époque, était passée entre les mailles de la censure. Un mois plus tôt, en effet, lors d'un concert donné à Lisbonne, Alfonso l'avait interprété et l'enthousiasme suscité dans la foule avait donné aux futurs insurgés l'idée de prendre ce morceau comme chant de ralliement, ou plutôt comme second signal, le premier titre radiodiffusé et qui avait servi de mèche première, ayant été le morceau présenté cette année-là par le Portugal lors du concours de l'Eurovision. Quoi qu'il en soit, en quelques heures, les jeunes capitaines réunis au sein du mouvement des forces armées prennent le contrôle de la ville et le pouvoir s'effondre. Symbole de cette révolution, les œillets rouges de ceux qu'on trouve en ce début de printemps portugais, notamment chez une fleuriste du marché aux fleurs de Lisbonne et qui, en vue d'une noce, en avait commandé des milliers. Entrant dans la ville, les soldats les auraient d'instinct placés au bout de leurs fusils, à moins que ce ne fût la foule qui les en aurait ornés. Quelques jours plus tard, la célébration du 1er mai incarne la liesse de la liberté retrouvée et la communion nationale, archive France Inter.
Une fête, une véritable fête qui a dépassé toutes les espérances. Des milliers et des milliers de Portugais dans les rues de Lisbonne, des militaires fraternisant avec la foule, des agents de police réglant la circulation avec un œillet rouge, des hommes pleurant, chantant, dansant. Il fallait être à Lisbonne ce 1er mai pour comprendre ce qu'un peuple peut ressentir au contact de la liberté retrouvée. Les dirigeants portugais eux-mêmes n'en reviennent pas. Écoutez la réaction de Mario Soares, le secrétaire général du Parti Socialiste, face à la foule.
C'est une victoire sensationnelle du peuple portugais.
Alvaro Cunha, le secrétaire général du Parti communiste, lui aussi, était ébranlé cet après-midi.
Aujourd'hui, je donne seulement une réponse. Regardez autour et vous avez tout ce que je pourrais dire, toutes les réponses à toutes les questions.
La révolution des œillets qui entraîne le retour au pays d'un certain nombre d'exilés comme Mario Soares qu'on entendait à l'instant et qui bientôt deviendra président. Ce retour concerne aussi des artistes. Parmi eux, Sergio Godinho, originaire de Porto et qui, depuis 1965, était parti se faire voir ailleurs pour éviter d'aller faire la guerre en Afrique. À Paris, à Amsterdam, au Brésil, où il avait enregistré ses premiers albums, systématiquement censurés par le pouvoir. En 1974, il se trouvait dans une communauté hippie de Vancouver, au Canada, lorsqu'il avait appris la chute de la dictature. Rentrant aussitôt au Portugal, il y avait enregistré son album « A Queima Roupa », comprenant notamment cette « Libertade » clamant « Nous avons vécu tant d'années à parler à travers le silence. Il n'y a de vraie liberté que lorsqu'il y a pain ». Paix, logement, santé, éducation, il n'y a de vraie liberté que lorsqu'il y a la liberté de changer et de décider.
A paz, o pão, habitação, saúde, éducation. A paz, o pão, habitação, saúde, éducation.
Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A sede de uma espera só se estanca na torrente. A sede de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Le chanteur Sergio Godinho pour ce Libertade, extrait de l'album A Queima Roupa, à bout portant, sorti en 1974 et qui rugit cette année-là sur toutes les platines du pays, repris également dans les nombreuses manifestations populaires. Les semaines suivantes, l'imposant pont Salazar suspendu sur le Tage est renommé pont du 25 avril. Pourtant, comme souvent en pareil cas, la fin de 48 ans de dictature rend la situation confuse. On fait la chasse aux alliés du régime déchu. Les révolutionnaires pointent le fado du doigt. Le fado et son fatalisme face aux volontés divines à mille lieues de la volonté de révolte et de l'engagement qu'il aurait dû prôner. Parmi les artistes montrés du doigt, Amalia Rodriguez, que certains accusent d'avoir notamment écrit un poème à l'attention de Salazar lorsque ce dernier était malade, ou bien d'avoir chanté pour l'inauguration du pont Salazar en 1966. Amalia Rodriguez, qui d'ailleurs, au lendemain du 25 avril 1974, le jour de la révolution des œillets, au lieu de communier avec son peuple, était partie se produire en Espagne. Cette même année 74, Rodriguez a beau enregistrer sa version à elle de la Villa Morena, il faudra 15 ans pour que les passions retombent et que, sous la pression notamment du président de gauche Mario Soares, elle redevienne la reine du fado adulée par ses compatriotes. Par la suite, instituée par l'UNESCO, patrimoine immatériel mondial de l'humanité, le fado qui continuera depuis, et pas seulement avec les chanteurs à touristes de Lisbonne. On trouve aujourd'hui tout un tas de successeurs à ces pionniers qu'on pense évidemment à Cristina Branco, à Micia ou bien encore à Ana Moura, la chanteuse avec laquelle on se quitte pour ce Maldisao, cette malédiction. Ainsi se referme ce numéro de Jukebox. Ce soir, Lisbonne, Salazar et le Fado. À lire notamment Le Fado, signé Agnès Pellerin chez Chandaigne et chez le même éditeur, L'Histoire du Portugal Contemporain, signé Yves Léonard. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site de franceculture.fr, la page de Jukebox, où vous retrouvez également la liste des morceaux diffusés, les références des archives, la possibilité d'exporter les playlists en un clic ou de nous laisser des commentaires. On vous y glissera également un lien vers un précédent numéro de Métronomique que nous avions consacré au lien entre tenu par le Portugal à ses colonies africaines. Jukebox à la préparation cette semaine, c'était Antoine Villos de la discothèque, Annie Signoret de la bibliothèque, à la technique ce soir c'était Jean-Michel Bernot, Agnès Catou à la réalisation, à Maurice Chardot au micro. Bonne soirée à tous et à samedi 19h pour un prochain Jukebox.
Desatino de ler no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte.